Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 6 mai 2013 avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour aborder tout d'abord l'actualité internationale avant de souffler la bougie. Actualité internationale, ben c'est sans doute aujourd'hui le sujet le plus important et le plus chaud, c'est cette attaque israélienne, pas trop revendiquée, mais contre des installations militaires et peut-être des arsenaux en Syrie. On fait état actuellement d'une bonne quarantaine de morts par des bombardements. Alors, c'est curieux parce que bon, les Américains font semblant de ne pas être au courant, les Israéliens ne revendiquent pas ça, mais il est à peu près clair que c'est des avions israéliens qui sont intervenus. À quel titre ? Ben, toujours un peu pareil, l'argument utilisé, c'est celui d'assurer la sécurité d'Israël. Ils pourraient y aller, nous fait-on savoir, de transport d'armes vers des gens du Hezbollah au Liban et que donc il convenait de ne pas permettre ce transfert par une action militaire. En tous les cas, c'est la première fois que aussi clairement, drastiquement, Israël intervient dans le conflit, et politiquement on peut dire que ça va changer la donne puisqu'il y a déjà eu un certain nombre de réactions. Ligue arabe, Algérie, Égypte, les Russes aussi se disent préoccupés par ce qui se passe, et pour le moment Bachar el-Assad, Bachar lui se réserve de réagir le moment venu, a-t-il fait savoir. Voilà, une situation forcément complexe et qui est appelée à évoluer heure par heure. Robert ?
Oui, oui, oui. En fait, on est surpris du moment choisi par Israël, parce qu'effectivement, c'est à peu près confirmé qu'ils ont procédé à une destruction militaire, comme ils disent. C'est-à-dire que donner l'impression, ce que tu expliquais, que c'est les militaires qui, bon, pour des questions de sécurité, intervenaient, mais comme si c'était leur domaine autonome, qu'ils n'avaient même pas besoin d'en référer au gouvernement, et donc le gouvernement n'avait pas besoin de donner son point de vue là-dessus. Sauf, comme tu l'as dit, à répéter que c'est dans le cadre de la défense et de la sécurité d'Israël que sont menées ces opérations. Il faut se souvenir qu'il y a plusieurs années, les Israéliens avaient détruit ce qui était supposé être les premiers éléments d'une construction d'une usine atomique en Syrie, hein, on est bien sur la Syrie. Les Israéliens étaient intervenus, avaient détruit ça. Bon, ça avait effectivement fait un scandale international, mais ça en était resté là. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est que Israël, enfin du moins les militaires israéliens disent que c'est pour détruire des armements que transitait par la Syrie venant d'Iran et à destination du Hezbollah, donc qui contrôle une partie du Liban Sud. Or, actuellement, le Hezbollah est dans une toute autre dynamique, puisque le Hezbollah prête main forte au gouvernement de Bachar, c'est-à-dire que c'est le Hezbollah qui équipe plus en hommes qu'en matériel peut-être, mais qui, encore que le Hezbollah disposait déjà d'armements modernes, et qu'il les met à disposition des Syriens. Et les Israéliens, eux, disent que c'est le contraire, que finalement, ces armes qu'ils ont détruites étaient destinées à se diriger vers le Liban et donc devenir une menace pour Israël. Donc, on n'est pas une contradiction près, et c'est les faits même qui montrent combien les Israéliens sont empêtrés pour trouver chaque fois des arguments pour faire des interventions. Alors, plus généralement, cette intervention, est-ce qu'elle est aussi pour brouiller un peu les images, c'est-à-dire finalement, on verrait les Israéliens s'associer aux tendances les plus dures du mouvement djihadiste qui mène la lutte en Syrie contre Bachar el-Assad, ce qui serait à la fois... ce qui peut être étonnant, puisque aussi bien tout le courant radical dur de l'islam, il continue, il maintient lui aussi que parmi ses revendications, il y a effectivement la destruction du régime sioniste. De ce point de vue-là, les mêmes positions que par exemple les Iraniens et d'autres. Donc Israël, en attaquant Bachar, indirectement aiderait ces gens-là. Donc là aussi, on est encore dans un type de contradiction. Contradiction à moitié, parce que on se souvient aussi que tous les mouvements djihadistes qui effectivement n'avaient pas la violence de ceux qu'on voit aujourd'hui, mais tout ce qui conduisait à remplacer des régimes, certes autoritaires, mais des régimes plus ou moins laïques par des régimes religieux islamiques, eh bien, c'était la stratégie des Américains, et que les Américains comptent en général sur Israël dans la région pour appliquer cette stratégie. On est aussi dans ce cas de figure possible. Il y a, et ça n'est pas tellement éloigné de notre sujet, pas très loin avec ce qui s'est passé au Mali, où par exemple, beaucoup de gens pensent, et parmi des gens qui sont plutôt très anti-impérialistes, disaient, bien finalement, ce qui se passait au Mali, c'était de créer un État islamiste dans la région sur lequel les Américains et les Israéliens pourraient s'appuyer. Pour des penseurs comme Samir Amin, par exemple, qui a dit, l'intervention de... Je ne la cautionne pas, mais en même temps, je suis obligé de reconnaître que l'intervention française au Mali a provoqué une situation qui va freiner cette volonté de l'impérialisme principal américano-sioniste d'installer des gens qui lui sont favorables dans la région. Enfin, tout ça, ça peut apparaître contradictoire, voire confus, ça l'est sûrement dans bien des cas, mais en fait, derrière tout ça, il y a quand même une ligne qui apparaît bien, c'est américain et israélien, quel type de pouvoir ils continuent plus ou moins à laisser s'installer, quitte ensuite à en subir les conséquences. Ça s'est vu en Irak, ça s'est vu en Afghanistan, mais néanmoins pour eux, c'est la voie incontournable pour demain avoir des alliés dociles.
Voilà, alors en marge de toutes ces préoccupations géopolitiques, il y a cette affaire des gaz de combat qui continue, puisque des gaz interdits, là c'est Carla Del Ponte, le juge chargé d'enquêter et qui doit rendre un rapport à l'ONU au mois de juin, qui s'est beaucoup avancée en déclarant cette fois que, d'après elle, elle avait des assurances que des gaz avaient été utilisés, et du gaz sarin, et ce, par les rebelles. Alors, ça engendre là aussi des réactions diplomatiques diverses et variées, les plus raisonnables étant de considérer qu'on ne comprend pas bien, sauf à jouer d'une instrumentalisation quelconque, pourquoi et comment elle peut se se permettre de faire une déclaration actuellement de ce type-là à ce sujet. Mais bon.
Ben, on avait vu depuis plusieurs jours que les Américains se posaient la question. On a même vu, alors que la France et Fabius étaient à fond derrière la théorie selon laquelle c'était bien Assad qui avait utilisé éventuellement du gaz sarin, mais ils étaient revenus là-dessus. Même Fabius a dit, allons-y prudemment, on n'en a pas les preuves encore. Donc tout le monde faisait du rétro-prédalage sur cette question, tous les soutiens à la rébellion. Bon, Carla le dit au nom de l'ONU, effectivement, ça fait du bruit, mais il est probable qu'ils ont les preuves, parce que toute cette prudence accumulée depuis quelques jours ne peut pas s'expliquer autrement que par la détention de preuves. Et ils n'ont pas envie, effectivement, de commettre des erreurs, pas tout à fait le même niveau, mais des erreurs du type oui, Saddam Hussein a bien des armes de destruction massive et il va les utiliser.
Voilà, pour ce sujet, on peut parler, ben, il y a de l'agitation politique dans le monde, bien sûr. Le Pakistan, aujourd'hui, avec ses attentats de talibans, semble-t-il, contre des réunions politiques. Les élections doivent avoir lieu la semaine prochaine, je crois. Et ils s'en prennent, cette fois, assez, disons, inexplicablement, on pourrait dire, au premier degré, à des gens proches de leur tendance. Alors, est-ce que c'est des luttes de clans, des luttes de tendance qui font que ces attentats, mais qui font quand même tout de suite une dizaine de morts au bas mot et qui déstabilisent forcément le pays qui n'en a déjà pas tant besoin que ça, quoi. Et attentat aussi au Bangladesh, où là, c'est des affrontements. Alors, il y avait l'accident, bien sûr, hein, on en est maintenant à 600 morts, mais indépendamment de ça, il y a des affrontements entre policiers et militants pro-islamistes qui veulent imposer une nouvelle loi contre le blasphème, autrement dit que la religion entre davantage dans la législation de l'État. Et ces affrontements, on n'y va pas de main morte, là-bas, on fait plus de 28 morts, donc en l'espace de 2 jours. Commentaire là-dessus, Omar ?
Non, mais non, je crois que c'est, hélas, ce qu'on observe, oui.
Voilà, t'as d'autres sujets. On peut parler de la Libye aussi, où alors le siège qui était fait d'un certain nombre de ministères par des groupes de milices, des milices qui ont été constituées donc suite au renversement, enfin qu'on contribue au renversement de Kadhafi, protestaient sur le thème. Ils voulaient qu'une loi soit édictée qui interdise aux gens qui avaient trempé dans les rouages de l'ancien régime d'avoir toujours aujourd'hui des postes dans les directions d'État, quoi. Et finalement, le pouvoir libyen a obtempéré sur cette demande. Du coup, les miliciens armés, hein, pick-up, automitrailleuses et tout, ont levé le camp et se déclarent, semble-t-il, satisfaits de la décision qui a été prise par le pouvoir.
Peut-être deux informations qui sont liées à des sortes d'anniversaires qui sont pas forcément des anniversaires très gais. Il y a d'abord l'anniversaire, bon, c'est Guantanamo, on pourrait dire tous les jours, c'est un anniversaire qui vise surtout à sanctionner le fait que Guantanamo n'est toujours pas fermé, malgré la promesse d'Obama. Alors Obama dit, c'est pas de ma faute, personne ne veut prendre en charge les gens qui sont chez nous. Et deuxièmement, pour éventuellement faire des transferts, y compris sur le territoire national américain, parce qu'il faut rappeler qu'il est sur le territoire cubain, mais même si Guantanamo est un morceau de territoire cubain loué aux États-Unis, Les États-Unis, d'ailleurs, pour l'histoire, hein, on rappellera que les États-Unis payent un loyer, mais que depuis l'occupation, d'ailleurs, Cuba, qui refuse de reconnaître cette occupation, n'encaisse pas les loyers. Alors, je ne sais pas, l'argent doit être accumulé, mais avec la dépréciation, peut-être qu'ils perdent beaucoup d'argent, mais ils mettent un point d'honneur à dire non. On ne reconnaît pas cette occupation d'un territoire, d'une partie du territoire. Sur l'affaire des prisonniers, ben oui, c'est bloqué. Et Obama, comme d'habitude, il attend toujours un consensus. Alors il veut un consensus international par le biais de l'ONU, il veut un consensus au niveau de l'ensemble de son Parlement pour financer l'opération. Et tout ça, ça ne vient pas. Mais il a effectivement Quand on a arrêté tous ces gens-là, bon, certains effectivement avaient pu tremper dans ce que les Américains leur reprochent, mais la plupart, hein, c'était la politique de la rafle. Et on avait entassé à Guantanamo des tas de gens pour lesquels effectivement aucune preuve n'est apportée, pas de procès, rien n'est fait. Donc c'est un dossier dont Obama n'arrive pas à se séparer et ça fait tâche quand même.
Mmh. Alors, on va dire un mot de la Hongrie, revenir un peu vers l'Europe où se tient, c'est assez curieux, mais il y a une explication, le Congrès juif mondial à Budapest, donc avec 500 délégués. C'est la première fois que ce Congrès juif s'externalise, c'est-à-dire quitte Israël. Et il a une bonne raison de le faire, et bien c'est la nouvelle montée de l'antisémitisme en Hongrie, qui est quasiment soutenue par le pouvoir, en particulier avec ce parti Jobbik, qui est un parti raciste, anticommuniste. Alors la Hongrie a une histoire avec le judaïsme qui est longue et tortueuse, hein, puisqu'il y aurait eu plus de 500 000 juifs hongrois d'exterminer entre 40 et 45. Et il y a une résurgence de cet antisémitisme dans le pays avec ce parti qui représente une part non négligeable de l'électorat, ce parti Jobbik. Donc les Juifs, sans doute pour attirer l'attention du monde là-dessus et puis en même temps pour montrer leur détermination, ont décidé d'aller tenir leur congrès à Budapest, alors que à quelques, bon certes le congrès est protégé par la police, mais à quelques lieux de là, pas très loin, le Jobbik a obtenu l'autorisation de réaliser une manifestation que le pouvoir n'a pas interdite.
C'était effectivement un gouvernement fasciste, je crois, pendant la dernière guerre mondiale, qui, donc pro-nazi, qui était au pouvoir en Hongrie. Donc, effectivement, il a appliqué la politique nazie à l'époque. Je crois que c'est Horthy, ce dictateur de cette époque. Enfin,
la vérifier. Alors, le problème, c'est qu'il y a des relents encore aujourd'hui, avec, qui ne sont pas marginaux, c'est pas de l'ordre du 0,01%. Pendant qu'on est dans les affaires nazies, l'Allemagne engage un procès au long cours d'une certaine Beate Schipp, une femme de 38 ans qui aurait participé, c'est justement l'enjeu du procès, avec un groupe néo-nazi à 9 homicides, un certain nombre de braquages et d'attentats. Et finalement, donc, elle va être jugée. Il y a un procès au long cours, je disais, il y a 600 témoins, on parle d'une à deux années de procès possible. Donc procès de la cellule clandestinité nationale socialiste. Et puis avec en toile de fond une certaine complicité, je ne sais pas si c'est le mot, mais on peut dire que la police a instrumentalisé gens.
Une facilité, sûre.
Oui, c'est même plus, puisqu'il semble qu'il s'en servait d'indicateur, quoi. Et n'a pas orienté ses recherches quand il y avait ces attentats dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on a fait semblant de chercher du côté des islamistes, alors que c'était des gens qui collaboraient en sous-main avec la police qui avaient fait les coups, quoi. Donc le procès, c'est aussi peut-être un peu le procès de la police allemande qui, elle non plus, n'est pas exempte de relents nazis dans ses rangs.
Je crois que c'était des Turcs, les principaux.
Oui, il y a eu des Turcs, des Grecs, il y a eu pas mal de choses, hein, d'attentats.
Mais le trio qui devait comparaître, les deux garçons, les deux hommes, se sont suicidés.
Oui, ils se sont suicidés en 2011.
Et donc c'est pour ça qu'elle apparaît toute seule. Enfin, il y a des comparses, mais je veux dire, on va dire que la cellule de base, elle n'est plus composée que de cette femme.
Voilà, et puis ben, peut-être une information que j'ai découverte récemment, qui est curieuse, c'est la question du septième continent. Je ne savais pas qu'il y avait un septième continent. Ben si, il y a un septième continent, et il n'est pas petit, il fait 6 fois la surface de la France. Et il est où ? Ben, il est au milieu du Pacifique Nord. C'est une plaque de détritus de plastique de 3 millions de kilomètres carrés. Le nettoyage est complètement impossible. Et il y a un certain nombre d'écologistes maintenant qui attirent l'attention. C'est pas la seule, hein. Il y en a dans le monde 5 continents comme ça de plastique dans les mers, dont un dans l'Atlantique Nord. Et ces gens-là attirent l'attention des Occidentaux et des autres sur le fait qu'on ne peut pas utiliser les plastiques et s'en débarrasser n'importe comment. Sans compter que ces particules, quand elles finissent par se désagréger en très petits morceaux, finissent par rentrer dans la chaîne alimentaire, que c'est des produits susceptibles d'agir sur le génome humain, et donc de conduire à un empoisonnement de l'espèce à plus ou moins long terme. Donc encore un combat écologique à mener, et celui-là il est d'ampleur. 6 fois la France de bouts de plastique... Ça fait froid dans le dos, comme on dit.
Mais comment tous ces morceaux de plastique se sont regroupés ?
Je ne sais pas, il faudra qu'on cherche à se documenter là-dessus.
Il y a un effet de magnétisme qui...
Non, c'est les courants, je pense, les courants qui les entraînent, et ça
et
doit faire des...
Et qui les accumulent à certains endroits. Ah oui, oui, il suffit d'un remous pour effectivement que ça se regroupe.
Il y a une équipe de scientifiques français, c'est à cette occasion-là que l'information a été donnée, qui part justement analyser un peu la situation sur place. Quoi. Voilà, petite pause musicale. Allez, le vent de Brassens, interprété par Bon Public, et puis on se retrouve pour la partie nationale.
Le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens propres médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens propres, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin Tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute affolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde pour que sécher les fâcheux qui préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau.
Voilà, Bon Public interprété Brassens. Vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 6 mai 2013. Et on aborde la rubrique nationale avant d'avoir en fin de journal là, une rubrique culturelle autour de l'événement de la semaine prochaine. Vie politique française, Robert, alors 30 000, 180 000, il y en a qui ont des lunettes grossissantes, des lots des lunettes amincissantes.
Oui, c'est assez surprenant, pour ne pas dire choquant, que des chiffres aussi faibles, enfin, pour qui connaît un peu ce parcours. De toute façon, 30 000, c'était ridicule. Je ne sais pas si 180 000, c'est exagéré, mais 30 000, c'est certainement ridicule. Je regardais les images là, qu'on nous montre, où on voit un président Hollande joyeux, presque hilar, au milieu de ses troupes, là, qu'il a réunies en séminaire aujourd'hui, à l'occasion donc du premier anniversaire de l'exercice du mandat présidentiel. Alors je me dis, mais ce côté farceur qu'on pouvait lire sur son visage, on peut dire, finalement, est-ce que c'est lui qui a conseillé à Valls de dire, écoute, tu balances un chiffre comme ça, tu fais semblant de faire croire que c'est la préfecture de police qui le donne, et tous les médias vont s'en emparer, puis comme en ce moment, et c'est pas nouveau, les journalistes, finalement, ils supportent de plus en plus mal Mélenchon, donc ils vont le mettre en tête, ils vont dire 30 000 ou 180 000, mais ça va créer la confusion. Et bien content de son coup, Hollande était donc tout joyeux aujourd'hui avec ses potes dans les salons de l'Élysée. Bon, plaisanterie à part, considère que ce rassemblement gauche de gauche, puisque cette salée, alors gauche de gauche ou même gauche de droite gauche, on ne sait plus comment dire, puisqu'il y avait, s'il faut dire les choses comme ça, en simplifiant, à la droite du front de gauche, il y avait les écolos, et à la gauche du front de gauche, il y avait le NPA. Donc tout ça, c'était pas, le NPA était en tant que tel. Les écolos, ils étaient à titre individuel, mais semble-t-il, ils étaient quand même assez nombreux, même si effectivement, il y avait une position hostile de l'organisation Europe Écologie Les Verts. Voilà, donc, 100 000, allez, de toute façon, c'était ce que les organisateurs souhaitaient, à 100 000, on fait la preuve qu'effectivement, Hollande, eh bien, l'examen probatoire est fini et tu t'as échoué, il faut faire autre chose. Bon, alors, le thème de la 6e République, je crois que c'est un thème qui est très populaire, en ce sens que, de toute façon, la cinquième a été créée en 1958-1960, donc elle a un demi-siècle, et même plus, et que elle fait référence à une histoire, au gaullisme, et que les gaullistes, il n'y en a plus beaucoup non plus, et que donc, mais simplement changer les institutions, si c'est pas pour changer le contenu le contenu notamment social sur les libertés et le social, ça sert pas à grand chose. D'où l'idée qui est jointe depuis le début par le Front de Gauche, c'est désigner une constituante, et cette constituante ne doit pas être un clone de l'Assemblée nationale ou même du Sénat. Ça doit être effectivement, comme l'ont fait les Islandais par exemple, c'était trouver une formule pour faire cette constituante qui simplement établirait des règles nouvelles pour écrire cette 6e constitution. Voilà, bon, c'était un petit peu abandonné parce que c'est revenu sur les sujets de l'austérité. La manifestation, c'est non à l'austérité et donc non à Hollande, il faut changer. Il faut changer de politique. Voilà, c'était donc une réussite qui va se confirmer sans doute parce qu'il va y avoir une série de rassemblements à la fois nationaux et régionaux, toujours à l'initiative du Front de Gauche, en cherchant à s'élargir. ce qui donc a pu être fait dimanche, avec à la mi-juin, sans doute encore un grand rassemblement, national au plan central, mais qui suivra d'autres rassemblements. Il y a toute une dynamique qui va nous conduire jusqu'à l'été, puisqu'à l'automne, eh bien, les démons électoraux vont reprendre le dessus, et on ne parlera plus que d'élections à la fois locales, municipales et européennes, et régionales. C'est européenne ou régionale l'année prochaine?
C'est les municipales, hein.
Oui, mais il y en a deux. Il y a aussi c'est les régionales, je crois. Oui, régionales aussi, voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Enfin, ce qu'on peut dire d'autre chose, hein. Je pense que tu vas le faire.
On peut penser que le fait qu'il y ait, même s'il y avait 180 000 personnes hier, ça ne va pas vraiment influer beaucoup sur Hollande ne va pas changer de politique. Néanmoins, on parle, est-ce que ça aura un rapport ? On parle d'un remaniement ministériel à l'occasion de cette année passée à l'Élysée pour le président. Est-ce que ce serait une manière d'essayer de se refaire un lifting et de remonter un peu dans les sondages ? Actuellement, il y a 38 ministres, c'est beaucoup. Ce gouvernement a été composé plus sur la base des accords avant les présidentielles, des accords entre toutes les tendances, puisqu'il y a même des gens qui représentent Bailey là-dedans, PRG, que
et
sur...
Les Verts,
et les Verts
oui,
aussi.
Au debout, quoi. Oui.
Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit allègement de l'équipe ministérielle, et puis maintenant, un an et demi après, peut-être ça, c'est des souvenirs qui conviennent mettre de côté. On peut d'ailleurs penser que la perspective serait plus dans ce cas-là d'un resserrement autour de gens du PS plutôt que d'une ouverture vers des gens en marge du PS. C'est pas demain que Mélenchon sera ni Premier ministre ni même ministre de quelque chose dans une telle perspective.
Oui, s'il y a une ouverture qui se fera, hélas, toujours la tendance forte chez les socialistes, c'est plutôt vers le centre. Mmh. Et bon, on a vu que Bayrou multiplie les appels dans ce sens-là.
Il n'est pas toujours suivi chez lui, d'ailleurs.
il n'est pas le seul. Et, bon, les décisions que continue sur le plan économique de prendre Hollande et Hérault l'a annoncé hier soir et Hollande l'a confirmé aujourd'hui dans le séminaire, eh bien, on va continuer de vendre des bijoux de famille pour se faire des sous. Alors on nous dit, mais c'est pas pour rembourser la dette, c'est pas pour faire plaisir à Merkel et aux Européens, à Barroso. Non, c'est parce qu'on va sortir un formidable plan d'investissement sur 10 ans. Alors ça, c'est le baratin habituel, hein, mais n'empêche que c'est la politique de privatisation, c'est-à-dire la politique néolibérale qui continue, quoi. Il n'y a pas du tout d'infléchissement à gauche, donc effectivement, c'est un échec total pour les 4 millions d'électeurs qui ont voté pour Mélenchon.
Voilà, donc l'État est encore actionnaire à 27% dans France Télécom, à 27,8% dans Safra, dans EDF aussi. Donc il pourrait y avoir des cessions d'une partie de ces participations au privé pour faire rentrer quelques miettes sur les 6 milliards de recettes manquantes aujourd'hui au budget. Voilà, Valls veut réformer le droit d'asile. Il semble pas qu'il veuille tout bousculer. Il semble qu'il voudrait, dit-il, accélérer les procédures et les améliorer. Mais les gens qui s'occupent des étrangers demandeurs d'asile pensent que la seule chose réellement à faire, c'est d'augmenter les moyens, c'est-à-dire le personnel à la disposition du service pour traiter les dossiers. Et pour le moment, M. Valls n'a pas parlé de ça. Alors, réduire le délai de délivrance du droit de résider de 16 à 6 mois, c'est très bien. Mais comment va-t-il le faire et va-t-il y arriver? Enfin, c'est une consultation qui va durer de juillet à octobre 2013. Hein, donc, on a le temps de la voir se dérouler et d'en reparler.
J'ai vu que sur le propos du mariage pour tous, eh bien, Lyon devient la capitale de la réaction.
Oui, oui.
Mais en même temps,
on s'en passerait bien.
Avec des conflits intérieurs, oui. On a vu que les barbaristes, hein, je crois que c'est les équipes de Barbarin, l'archevêque de Lyon, qui est en pointe dans cette bataille contre le mariage gay. Et donc il y a eu une bagarre avec les courants autour de Frigitte Barjot qui, mène sa campagne
Sur les enfants et
l'union civile.
Oui, elle est prête à accorder le mariage, mais elle veut tenir bon sur le droit d'adoption et autres modes de procréation divers et variés, quoi, au service de ces couples.
Oui, mais en même temps, en fait, elle continue de toute façon à vouloir manier la différence, c'est-à-dire que l'union civile, ça serait pour les homos et donc ça serait une forme de mariage, mais un mariage au rabais, voilà. Donc c'est complètement, de toute façon, Lyon capitalise en ce moment la réaction.
Oui, ils ont fait une assez grosse manif hier quand même. Voilà, un mot de la Polynésie française où les électeurs ne sont pas découragés. Leur leader charismatique a beau être condamné à la prison pour corruption, prison avec sursis pour le moment, mais ça pourrait ne pas durer, pour corruption diverses et variées et multiples, eh bien le voilà qui remporte les élections à 45%, Temaru n'arrivant qu'à 25% derrière, avec un autre groupe autonomiste qui lui aussi est dans les 20%. Du coup, Flos récupère, depuis 2004, il avait été évincé du pouvoir, récupère la direction de cette province française, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Flos, c'est un peu Berlusconi, ou un petit format, mais eh bien oui, ça marche toujours. Il faut dire qu'il a mis en place un système de clientélisme qui a toute épreuve. La preuve en est faite pour arriver à se faire réélire alors qu'il est complètement véreux.
Oui, c'était une triangulaire. Il a gagné à l'occasion de cette triangulaire. Et Temaru, effectivement, a eu le tort de il le pense, hein, que c'est pour lui quelque chose d'important, de centrer une partie de sa campagne électorale sur la décolonisation de la Polynésie. Quelque chose, effectivement, qui fait peur, quoi, forcément.
Voilà, on s'en tient là pour cette partie nationale. Voilà, on va ouvrir une partie culturelle. Est-ce que j'avais encore quand même des choses importantes à dire? Oh, il y a plein de choses, des petites choses, mais bon, on y reviendra. Oui, Fessenheim, 500 manifestants, hein, pas pour la fermeture de la centrale, mais contre la fermeture de la centrale, évidemment, c'est le lobby de tous ceux qui profitent de la centrale comme elle est, qui se mobilisent pour essayer d'empêcher cette fermeture prévue cette année. Et puis à Saint-Nazaire, il y a les chantiers STX coréens qui détiennent 66% des parts, les 33% restants étant à l'État français, qui veulent se défaire de l'activité et se recentrer sur leur fabrication de pétroliers. Du coup, ça crée beaucoup d'inquiétudes puisqu'il y a 2100 salariés à Saint-Nazaire, ils ont un autre site à Lorient et un autre en Finlande, quoi. Alors la société déclare que c'est pas parce que c'est pas rentable, effectivement, il y a des commandes en cours, mais c'est un recentrement d'activité industrielle. En tous les cas, les salariés, eux, craignent pour leur boulot. Voilà, je vous propose une pause musicale et puis on va se retrouver pour parler un petit peu plus longuement que d'habitude culture à propos d'un événement qui aura lieu en fin de semaine prochaine. Alors, cette musique de Jean-Claude Guerre, que nous connaissons bien ici, pour introduire un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine, le festival Engrangeons la musique, les 17, 18, 19 mai. Et avec nous pour en parler dans les studios de Canu, Mathilde et Audrey, qui toutes les deux s'occupent de la réalisation, de l'animation de ce festival, donc Engrangeons la musique, dont c'est la, on met plus, c'est quoi, la 8e ou 9e édition ? Enfin, 8e. Alors bonsoir à vous tout d'abord. On va essayer en quelques 10 minutes de balayer un petit peu le programme. Peut-être vous voulez nous présenter l'ensemble ou vous préférez que je le fasse. Allez-y, si vous...
Alors on va présenter l'ensemble. Donc il s'agit de 3 journées consécutives avec un programme très éclectique, avec beaucoup de choses. Alors je pense que je ne vais peut-être pas présenter chaque spectacle, chaque concert, parce qu'il y en a quand même beaucoup.
On balayera un petit peu quand même, mais donnez-nous le concept. Donc c'est une manifestation conviviale, dans le budget toujours.
C'est ça, avec 3 jours de musique, spectacle, pour les enfants, pour le tout public, et puis avec des rencontres, des découvertes, beaucoup d'émotions, et puis tout ça encadré par des apéro-concerts. Qui ont lieu dans 22 communes du Bugey et où les vignerons du Bugey
s'investissent,
font goûter leur vin et tout en musique.
Alors cette année, c'est autour de Brégnier-Cordon.
C'est ça.
Je ne connais pas le village, plus 22 communes. Oui, c'est Brégnier-Cordon, c'est le centre, mais il y a beaucoup de communes concernées autour. Donc.
Voilà, 22 communes qui environnent...
Sud de Bugey.
Voilà. Et donc tous les apéro-concerts...
Combien de kilomètres de Lyon ? Vous mettez combien de temps pour y aller ?
Il faut compter 45 minutes.
45 minutes.
45 minutes, 50 minutes. Ça dépend de l'allure à laquelle on roule.
Voilà, ce qui caractérise, je crois, ce festival, qui est un petit peu particulier, c'est qu'il y a beaucoup de convivialité. Il y a des choses pour les enfants, il y a des spectacles gratuits, il y en a des payants, mais c'est très varié. Alors, on peut, bien sûr, soit loger sur place, soit y aller une journée, soit revenir et repartir. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, hein, j'imagine. On n'est pas tenu de...
Il y a un camping qui est mis à la disposition du public, et il y a également des gîtes, hôtels dans le budget. Et oui, on peut venir sur une journée, 2 jours, on peut prendre un pass pour les 3 jours. Tous les apéro-concerts sont gratuits. Et puis, il y a également plusieurs manifestations au sein des 3 jours qui sont gratuites aussi.
Alors, est-ce qu'il faut réserver quelque part quelque chose si on veut y aller, ou on se pointe et puis on voit sur place ?
Alors, c'est mieux de réserver. Il y a les informations sur notre site internet. Cette semaine, c'est mieux de réserver sur le téléphone du bureau, mais on a aussi un portable. Est-ce que je le donne ?
Oui, bien sûr, que ça serve. Hein.
Alors, le numéro, c'est 06 58 61 72 98. Et notre adresse mail, engrangeonslamusique@yahoo.fr. Et on a également un site internet, www.engrangeonslamusique.fr.
Voilà, écoutez, je vous propose une courte pause musicale. On va faire court parce qu'on a quand même encore beaucoup de choses à dire, mais pour quand même donner une idée à nos auditeurs de ce qui va se passer, avec un morceau qui est d'une fanfare qui s'appelle la fanfare Couche-Tard, la bien nommée, je suppose.
Oui. Oh,
Voilà pour la fanfare Couche-Tard. Ben, je crois que c'est eux qui ouvrent un peu le festival vendredi 18h30. Hein. Vendredi 17 mai. Pas cette semaine, l'autre. Alors dites-nous après ce qui va se passer ce jour-là.
Alors après la fanfare Couche-Tard, on a une soirée gratuite à partir de 19h qui s'ouvre avec l'Appel du 5. L'Appel du 5, c'est tout simplement du jazz manouche. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ensuite, c'est les Mountain Main qui suivront. Donc là, c'est plus du blues. Ils sont assez incroyables, d'une vivacité intense. Et ensuite, la fanfare Couche-Tard qui donc clôture la soirée. Donc vous l'avez entendu, c'est plus de la musique des Balkans, des cuivres, une fanfare, ça porte bien son nom. Voilà pour la journée du vendredi.
Et le samedi, on remet ça, mais alors, à partir de 14h30.
Voilà, alors le samedi, on a une activité gratuite à 14h30 et à 16h qui s'appelle donc les balades musicales et surprenantes, donc, où nous avons Jean-Claude Guerre que vous avez écouté tout à l'heure. Ensuite, on a des activités pour les petits et grands. Donc ça, c'est l'Odélude qui s'en occupe. Donc c'est divers jeux pour les enfants,
pour les adultes. À partir de 4 ans, hein, donc même les petits, là, on peut les amener. Quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, à 17h30, on a le concert des mômes. Donc à partir de 4 ans. Donc là, c'est de la chanson pour les enfants. La chanson française pour les enfants. Donc c'est Philippe Fourel qui chante. Et puis ensuite, la soirée de 19h jusqu'à 23h, ouais. On a La Goutte. Alors La Goutte, c'est un groupe, pour vous donner une idée, qui ressemble un petit peu à Mano Solo. Voilà, et puis ensuite on a Loïc Lantoine, donc Loïc Lantoine qui est très connu, je pense que la plupart de nous le connaissons.
C'est la vedette du festival,
la
non pas forcément.
La vedette du festival,
c'est quand même un petit peu.
Voilà, donc quelqu'un qui n'écrit que quand il est ému, avec des très beaux textes. Loïc Lantoine est incroyable.
Il y en a qui n'écrivent que quand ils sont sous.
Voilà, lui c'est que quand il est ému. Voilà, et puis pour clôturer, il y aura Laurent qui est un accordéoniste très sympathique avec des superbes chansons et qui met une ambiance terrible pour clôturer la soirée. Voilà, et puis après on passe au dimanche.
Il y a une grande journée le dimanche, là on commence le matin là, quand même.
Alors le dimanche, on commence dès le matin à 10h45 avec un spectacle qui s'appelle Le Tiroir à Trésors. Un spectacle qui se voit en famille à partir de 3 ans. On continue à 11h avec le Piston de Manoche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce spectacle, Mathilde ?
Du jazz ? Dans le micro, dans le micro.
Quelqu'un qui ressemble un peu à Raymond Devos, c'est musical, mais en même temps, c'est très poétique, et beaucoup de jeux de mots, et voilà, c'est très drôle.
Voilà, après on a une petite pause restauration pour ceux qui ont un petit creux. Et puis à 14h45, Roule Tazik. Alors je pense que ça vaut le coup d'œil, c'est trois musiciens qui se déplacent en jouant et en pédalant sur une espèce de voiture, une voiture musicale. C'est assez, assez sympa. Après à 16h, on a un spectacle qui s'appelle Ivre d'équilibre. Donc du cirque théâtralisé et avec également de la musique. Voilà, ça porte aussi son nom, hein, c'est un spectacle d'équilibre. Et puis après, alors là il y a une surprise, mais je peux pas vous en dire plus.
Ah ben non, sinon ce serait plus une surprise.
Voilà, et puis à 19h, la soirée de clôture, donc avec Arboésie, Terre des Ancêtres, donc un spectacle danse et piano, donc au piano Jean-Claude Guerre, le directeur artistique du festival. Très beau spectacle, une danseuse accompagnée en direct au piano. Et puis Pascal Amoyel, un des pianistes les plus connus en France.
Ce sera de la musique classique, là.
Du classique, voilà. Avec.
Et la gratinée, c'est. C'est un groupe ou une
puis,
soupe?
Alors, la gratinée à 23h, non, ce n'est pas un groupe. C'est l'équipe cuisine qui vous offre la soupe à l'oignon pour terminer le festival entre amis.
Donc, si lundi, vous ne travaillez pas, parce que lundi est devenu partiellement férié, vous aurez donc tout loisir de vous reposer après ces trois folles journées.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit en une minute qu'il est important de faire connaître à nos auditeurs ?
Qu'on a toujours le beau temps, tous les ans, et que vous êtes tous les bienvenus.
Voilà. Écoutez, on quitte et on termine ce Canu Info avec la musique de Loïc Lantoine, là, qui passe en fond sonore. Je vous remercie. Donc, on invite nos auditeurs qui souhaiteraient y aller. On n'a rien dit des tarifs. Ils sont raisonnables. Hein. Les concerts sont à 9, 12 ou 15 euros maximum. Quoi. 16,50
pour
le dernier, 6 pour les enfants. Voilà, moyen de se restaurer, moyen de passer 3 journées conviviales en musique, chansons. Ce Canu Info sera diffusé demain matin à 8h. Vous pourrez également le réécouter sur Internet. Souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu et je remercie Mathilde et Audrey. Bonsoir.
Bonsoir.
Et qui me dit dans un sourire. Quand je détraque et que je tique, que je suis pas traque et pathétique. Quand j'hurle dans un mauvais roman, que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas frère, ça va pas. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haute main d'eau, qui me dit dans un sourire.